Quand je serai grand, je ferai comme papa. C'est cette phrase que la plupart des petits garçons se disent lorsqu'ils grandissent auprès de leur père. Et ce n'était certainement pas différent pour celui qu'on appelle Mentoutep II. Bonjour, bonsoir à tous. Vie, durée et santé. Nous sommes en moins 2020 avant Jésus-Christ dans la vallée du Nil. Le pharaon qui règne s'appelle Intef III. Il est le père de celui qu'on appellera plus tard Mentoutep II. Et ce dernier a une fierté dans sa vie. C'est d'avoir récupéré des mains des ennemis, entre guillemets, ou des adversaires du nord de l'Égypte, d'avoir récupéré Abydos, une terre sainte, une terre où les ancêtres étaient enterrés. Plusieurs années plus tard, lorsque Mentoutep II, ou le deuxième, devient pharaon, une nouvelle le brise le cœur. Un messager lui confie, lui rapporte que la terre d'Abydos, où les grands ancêtres sont enterrés, ce qu'on appelle les Ndélé, les Bendélé dans les langues africaines, et les Netcher ou les Netcheru, nom qui s'écrit avec trois drapeaux, cette ville a été prise, cette ville a été saccagée. Le sang de Mentoutep ne fait qu'un tour, et c'est à ce moment qu'il décide et déclare une guerre sainte. Septième loi du livre de Robert Greene, à savoir les 33 lois de la guerre, stratégie. Nous avons dit que notre sujet, notre grand sujet, va être inscrit dans le livre de Robert Greene, à savoir les 33 stratégies de la guerre ou les 33 lois de la guerre. Ceci sera notre cercle, mais la quadrature de ce cercle-là sera l'histoire africaine, car nous l'avons dit que le livre de Robert Greene est assez européocentré ou basé sur beaucoup de récits européens, occidentaux ou asiatiques. Nous avons voulu voir le point de vue africain, appliquer les mêmes lois, mais les illustrer avec des histoires africaines, mais aussi apporter le contexte africain, d'apporter la mentalité africaine dans ce registre de stratégie, dans ce registre de guerre. Nous l'avons dit, en temps de guerre, c'est le combat des êtres humains, mais en temps de paix, c'est le combat des idées. Donc le combat n'arrête jamais, nous ne devons pas laisser notre cerveau stagner, surtout en ce temps de confinement. C'est vrai que ça peut être un temps de stress, certains travaillent à la maison, certains malheureusement ont perdu leur emploi. Mais c'est ici notre but, notre devise, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser croiser les bras, de chercher à faire des choses, à bouger. Il y a beaucoup de plateformes. Vous pouvez essayer aussi de créer un blog, de créer une activité, une chaîne YouTube, quelque chose, un podcast, pour essayer un peu de, non seulement se défouler, mais de partager les idées que vous avez, de lancer un projet que vous avez. Et c'est extrêmement important, car nous voulons vraiment enraciner ce podcast dans la réalité et ne pas simplement être une voie de divertissement, mais surtout d'instruction. Nous voulons être à la croisée des chemins de ce qu'on appelle en anglais edutainment, c'est-à-dire l'éducation et l'entertainment. So education and entertainment, c'est-à-dire à la fois transmettre des connaissances, mais dans la manière de divertir aussi les autres. Pourquoi ? Parce que cette pédagogie qui est la meilleure, car on utilise à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est dans cette connaissance-là égyptienne, c'est dans la connaissance de ces choses, car vous savez, les hiéroglyphes sont des symboles qui non simplement ont une explication logique, mais qui utilisent des éléments de la nature pour pouvoir véhiculer ces messages-là. Donc il y a la parfaite utilisation du cerveau gauche et du cerveau droit, ce qui en montre la puissance. Nous devons donc nous inspirer de ce que les anciens ont fait afin de pouvoir être beaucoup plus efficients et efficaces dans tout ce que nous entreprenons dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc, nous disions que le sang de Mentoutep ne fait qu'un tour lorsqu'il apprend que la cité de son père a été saccagée. La ville d'Abydos, où étaient enterrés leurs ancêtres, où étaient enterrés les grands pharaons du passé, c'est dans cette ville-là qu'un saccage impardonnable s'est opéré, et Mentoutep se décide alors de lancer une guerre dite sainte. Pourquoi guerre sainte? Comme nous l'avons dit, le livre de Robert Greene dans sa septième loi. La septième loi dit ceci. Transformer la guerre en une croisade. Nous avons vu les six premières lois à travers les émissions précédentes. Maintenant, nous sommes à la septième. Il y en a encore une vingtaine à explorer. Alors, la septième loi dit ceci. Transformer la guerre en une croisade. Et comme nous l'avons dit, ces mêmes principes qui ont été établis dans ce livre-là, nous allons les illustrer par des expériences africaines pour pouvoir mieux comprendre, mieux cerner la profondeur de ces choses et aussi donner les nuances africaines par rapport à ces choses. Donc, transformer la guerre en une croisade, ce que fait Mentotep lorsqu'il apprend que la fierté de son père a été violée. Il se décide alors d'entamer quelque chose. Pourquoi est-ce que cette attaque marque autant Mentotep? Comme nous l'avons dit, c'était la fierté de son père. En entendant cette nouvelle, plusieurs souvenirs viennent à lui. Il se rappelle certainement toutes les fois où, accompagné de son père, sa petite main ancrée dans la paume de son père, marchant, visitant cette ville d'Abydos, et son père lui racontant certainement les hauts faits de la civilisation de Tameri ou de Kemet. Et le souvenir de ces moments, de cette fierté, de cette lumière, cette lueur, ces étoiles qu'il voyait briller dans les yeux de son père lorsqu'il parlait des hauts faits d'armes, lorsqu'il parlait de comment il avait récupéré la ville, car cette ville avait été envahie avant par les peuples du Nord, car remettons le contexte dans lequel nous sommes, dans les années 2000 avant Jésus-Christ, eh bien l'Égypte est divisée en deux grandes régions, Haute-Égypte et Basse-Égypte. Et oui, nous sommes encore apparemment revenu à la configuration de la première dynastie ou du prédynastique. C'est-à-dire que l'Égypte avait réussi à se fonder à la première dynastie, peut-être même un tout petit peu avant, grâce à Narmer et à ses parents. Pendant six dynasties, c'est-à-dire six familles régulières qui ont eu à régner, une dynastie, ce n'est pas simplement un seul roi, et puis quand c'est le deuxième roi, c'est une autre dynastie. Non, une famille, une dynastie, c'est une succession de plusieurs rois d'une même famille ou d'un même sillage ou cercle qui continue à régner pendant ce temps-là. Alors, pendant les six premières dynasties, nous avons donc ces grandes familles-là, différentes familles qui règnent, et nous devons comprendre que le principe de dynastie nous informe aussi et met fin au fait, au débat où est-ce que les anciens Égyptiens étaient des Peuls, est-ce que c'était des Sénégalais, est-ce que c'était des Camerounais, est-ce que c'était des Congolais, est-ce que c'était des Éthiopiens, est-ce que c'était des Maures, si bien que le terme est beaucoup plus postérieur à cela, est-ce que c'était des Soudanais. Il faut tout simplement simplifier la chose en se disant que c'était plusieurs dynasties qui se sont succédées. Et dans ces dynasties, il y avait simplement des différentes tribus africaines qui sont passées, d'autres qui avaient beaucoup plus de liens, par exemple avec des Peuls, d'autres peut-être avec des gens qui sont au Congo, d'autres avec des gens qu'on appelle comme les au Kenya. On en a parlé lorsque nous parlions de la grande pyramide de Giza avec les Kalenjin, dont nous avons beaucoup parlé dans les missions 1, je pense, hein, parce qu'il y avait l'émission 0, ensuite l'émission 1. Nous avons grandement parlé de ça. Je vous invite vraiment à aller réécouter cette émission. C'est extraordinaire, c'est passionnant. On vous explique d'où venaient les bâtisseurs de l'ancienne Égypte. Preuve à l'appui, texte à l'appui, et c'est vraiment passionnant. Donc, les différentes familles qui sont succédées donc venaient un peu de partout en Afrique, différentes tribus venaient au pouvoir. Un peu comme on a dans nos pays africains où un président peut venir d'une telle région, après l'autre président, c'est le président d'une autre région qui vient. C'était un peu la même chose, car il y avait différentes nomes. Hein. Les nomes sont comme des provinces qu'il y avait en Égypte. Ils parlaient certes tous la même langue, mais il y avait aussi certaines spécificités qui étaient propres à ces nomes-là ou à ces différentes, peut-être, tribus, si on peut les appeler comme ça, car on sait très bien qu'au prédynastique, on parle de chefs de tribus, on parle de tribus qui se mettent ensemble dans la cérémonie qu'on appelle Sematawi et qui va former l'Égypte ancienne. Mais tout cela se passe évidemment, mais après la sixième dynastie, il y a une grande figure que nous verrons aussi bientôt qui s'appelle Pépi II, qui malheureusement a du mal à gérer cette grande Égypte et à maintenir la cohésion nationale. Et ce qui va se passer, c'est que des chefs de nomes, des chefs de province vont commencer à s'accaparer le pouvoir, et petit à petit, Pépi II va lâcher les rênes et va perdre le contrôle de cette grande Égypte-là. Il va un peu être dans le même scénario que ces rois, ou plutôt présidents africains qui ont régné pendant des années, des années, des années, surtout en Afrique centrale, et qui à un moment donné ont perdu le contact avec la réalité, ont perdu le contact avec la centralisation du pouvoir et ont commencé à décentraliser à excès. Et vieillissant au pouvoir, il n'a pas compris qu'une jeunesse prenait le pas sur les différents nomes, et sa vision avec cette jeunesse-là était complètement décalée, et il perdait les rênes petit à petit. Et ajouté à cela, il y a eu une crise écologique qui a frappé durement l'Égypte, ce qui faisait que le niveau du Nil, soit il y avait des inondations, mais le pire, ça c'était encore gérable, mais le pire c'était il y avait des baisses du niveau du Nil, des assèchements, et les plantations ne produisaient plus ce qu'elles devaient quotidiennement ou habituellement, et l'Égypte a sombré comme ça dans une crise économique et dans une crise écologique, et Pépi II n'a pas su gérer cela, ce qui a fait que les nomes se sont recroquevillés, les chefs locaux se sont rebellés, se sont appropriés les terrains, se sont fait chefs de ces nomes, de ces provinces, et petit à petit l'Égypte s'est effritée, à tel point qu'ils sont revenus à la configuration du passé. Car vous savez, dans les grandes unions, que ce soit par exemple aux États-Unis ou ailleurs, il y a toujours ces différentes parties où il y a des mouvements sécessionnistes, par exemple. Nous savons que les États-Unis ont connu ça, il y a eu la guerre entre le Nord et le Sud. Bien qu'ils aient eu à combattre contre les Anglais, ils se sont mis ensemble pour construire une grande nation. Mais après, il y a eu le clivage, il y a eu la séparation entre le Nord et le Sud, et ensuite ils se sont remis ensemble. Et même l'Union Européenne qui a du mal à s'effriter, vous voyez qui a du mal à se former, pardon, qui s'effrite maintenant, car il y a eu le Brexit il n'y a pas très longtemps. Et même l'Italie, après s'être fait... donner un vent par la France et l'Allemagne qui ne voulaient pas l'aider avec le coronavirus, et c'est curieusement Cuba, hein, Cuba, Castro, Fidel, qui de par son travail a permis, bien qu'il nous a quittés, que les médecins cubains puissent venir à la rescousse des Italiens. Waouh, quelle histoire, n'est-ce pas? 2020, on en verra des choses. Et cela a amené des gens, bien que ce sont des individus, hein, ce n'est pas une position de l'État italien, il y a des individus qui ont brûlé des drapeaux d'Union Européenne, ce qui est assez étonnant. Et on se demande s'il n'y aura pas des représailles, des velléités ou de séparatisme. Et voilà, donc c'est pour dire que les grandes agglomérations, elles ne sont pas faciles à maintenir ensemble, les grands groupes, les grands ensembles. Hein, nous l'avons, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Europe récemment. Donc des grands pays, des grands ensembles peuvent avoir des difficultés, il y en a qui peuvent quitter les unions. Et ça s'était passé aussi au temps de l'Égypte, où il y avait de ces gens qui avaient la nostalgie de l'indépendance, mais bien que la Semata, oui, avait été faite sous Narmer, mais bon, on va pas dire qu'après ça, c'était aller au pays de merveille, que tout le monde était d'accord avec ça. Oui, certains, il y avait un consensus de former une grande nation, un grand groupe, mais il y en a qui avaient toujours gardé cette volonté de vouloir se séparer, d'être indépendant, comme on dit, par exemple en France, il y a les séparatistes corses. Vous voyez, donc ce sont des choses qui existent jusqu'à présent, qui existaient très tôt dans le passé, et qui persiste même jusqu'aujourd'hui. Donc, après Pépi II, pendant la sixième dynastie, donc, l'empire égyptien s'effondre. Nous entrons dans ce qu'on appelle la première période intermédiaire. Pendant cette période, il y a donc une période de crise économique, il y a des famines, il y a la sécheresse, il y a des pillages, et il y a un papyrus même qui, si je ne me trompe pas, peut-être le papyrus dit Puvert ou dit Poix, qui parle de ces choses. Et beaucoup ont voulu assimiler cette période à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte d'épisode des 10 plaies qui... Parce que le papyrus dit Puvert parle de... ou dit Poix, parle de choses étranges qui se passent dans cette période-là. Le papyrus du puits vert, bien que datant, ou en tout cas par les égyptologues, est daté de la 19e dynastie, donc beaucoup plus tard que la première période intermédiaire, mais selon certains experts, ils disent que ce qui est écrit dans cette littérature fait référence à ce qui s'est passé pendant la première période intermédiaire. Donc il y a des différentes visions par rapport à ça. Mais ce que nous savons en tout cas, c'est que pendant cette période, c'est une période de chaos, où l'Égypte va se recroqueviller, va se diviser entre nord et sud, et où beaucoup de chefs militaires, des chefs locaux vont s'autoproclamer rois, des seigneurs de guerre vont prendre le pouvoir, et l'Égypte va être divisée majoritairement en nord et sud, et d'autres territoires aussi un peu indépendants qui vont vouloir être autonomes, loin de la main bienveillante du pharaon. Bienveillante, évidemment, c'était une question de point de vue, car les seigneurs de guerre, eux, pensaient que c'était une main malveillante. Donc, c'est dans ce contexte-là que, pendant la 6e dynastie, les choses s'effondrent, et nous passons de 7e, 8e, 9e, 10e dynastie. Et ces dynasties que nous venons de citer sont un peu réparties entre surtout dans le nord et le sud. Différentes factions vont donc prendre le terrain, et Intef III, fils de Intef II, vont être cette famille là qui vont former la 11e dynastie, qui vont se recroqueviller vers le sud, hein, vers la haute et Égypte, d'où venaient les anciens Égyptiens, ou du moins là où ils s'étaient établis en premier lieu avant de former l'Égypte, ou du moins les conquérants qui avaient gagné la guerre. Ils sont donc là, en Haute-Égypte, et Intef III, durant son règne, qui a été aussi bien suivi de temps de paix que de temps de guerre, mais il a été vraiment aussi un pharaon militaire, sa plus grande victoire était d'avoir récupéré la ville d'Abydos des mains du roi du Nord. Alors les rois du Nord à ce moment-là sont aussi des Africains, des Noirs, bien qu'il y ait quelques tribus asiatiques là au niveau du Nord, du Delta peut-être, mais c'est majoritairement une terre africaine, toujours noire, entre les mains d'Africains, mais qui ne s'entendent pas, qui sont séparés avec leurs autres frères du Sud. Et vous voyez que cet exemple est intéressant à prendre, et même contemporain à nos problèmes d'aujourd'hui, car en Afrique, on parle beaucoup de problèmes de tribalisme. Tribalisme à travers les États, et à travers le continent, car vous connaissez les contextes dans lesquels le continent a été découpé, dans ce qu'on appelle la conférence du Congo, Congo Conference, ou la conférence de Berlin. Et le fait que cette conférence soit appelée Congo n'est pas anodin, nous en reparlerons. Et ce qui fait que on dit des tribus qui ne s'entendaient peut-être pas ont été mises ensemble, ou ça n'a pas été fait selon les désirs culturels des gens, et ça crée des problèmes. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la Corse, par exemple, qui est près de la France, mais on les appelle des séparatistes corses. Pourquoi ils ne veulent pas être dans l'ensemble français? Vous voyez, l'Angleterre, qui est un pays européen, mais qui ne veut pas être dans l'Union européenne. On va dire, oui, question plus économique que culturelle, mais ils veulent pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a la même couleur de peau que forcément on a les mêmes ambitions ou les mêmes rêves. Donc, ainsi, ses frères africains se séparent, oubliant la Sematawi. Mais comme nous l'avons dit, la Sematawi, c'est un peu une très belle histoire. On va dire, oui, on s'est tous mis ensemble, on voulait être ensemble. Oui, ça, c'est un peu l'histoire officielle que l'on raconte. Mais il y avait qui n'étaient peut-être pas d'accord avec ça, et avec le temps, il y en a qui avaient peut-être gardé des agendas cachés. Mais en règle générale, oui, il y avait un esprit égyptien, il y avait un esprit fort, parce que c'est une civilisation qui a gardé une stabilité pendant des millénaires, et on ne peut pas prendre ce pays comme dans le contexte où il y avait toujours des guerres intestines, où ils voulaient se séparer. Non, il y a eu des périodes intermédiaires, mais la force de l'unité nationale a été toujours quelque chose d'extrêmement fort dans cette civilisation-là. Mais voilà qu'ils arrivent à un niveau, à une étape de leur histoire où il fallait se réinventer, se régénérer après s'être séparés. Donc, le contexte de l'époque, sous Intef III, qui est le papa de Mentuhotep, il est un pharaon militaire qui combat avec les pharaons du Nord, Et nous pensons qu'à l'époque de Intef III, le pharaon est Khéti III au niveau du nord de l'Égypte. Donc au niveau du nord de l'Égypte, nous avons Khéti III, et au niveau du sud de l'Égypte, nous avons Intef III. Donc, ces deux-là ont des enfants. L'enfant de Intef III s'appelle, comme vous le savez déjà, Mentuhotep. Et l'enfant de Khéti III s'appelle Mérikaré. Alors ces deux enfants vont grandir, séparés les uns des autres, l'un, comme nous l'avons dit, en Basse-Égypte, c'est-à-dire au nord, et l'autre en Haute-Égypte, c'est-à-dire au sud. C'est vrai, je répète encore, parfois ça peut faire tourner la tête. Oh, mais c'est haut, c'est bas finalement. Oui, donc la Basse-Égypte, c'est le nord. La Haute-Égypte, c'est le sud. Et pour bien comprendre ça, il suffit simplement de se mettre en tête que le globe, il n'est pas comme tel qu'on le voit. Il faut le mettre à l'envers. L'Afrique du Sud, c'est le Nord. L'Afrique du Nord, c'est le Sud en réalité. Le globe qu'on nous montre dans la télévision, au cinéma, dans nos livres, n'est pas le vrai. C'est-à-dire qu'il faut le retourner. Les cartes, les dimensions que dont on nous présente ne sont que l'on nous présente ne sont pas les vraies. Nous en avons parlé au cours de l'émission précédente. Et par rapport à mon idée où il fallait changer la projection Mercator qui était un géographe, un cartographe, hein, qui avait dessiné les cartes mondiales telles qu'on les connaît maintenant, et c'est ces projections là que l'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi on appelle ça projection Mercator, du nom de ce cartographe qui avait fait ces calculs et ces dimensions là. Nous devons les balancer à la poubelle et plutôt, sans manque de respect, hein, c'est juste que voilà, il faut avoir une projection, même pour la vérité scientifique, ce ne sont pas les cartes qui sont scientifiquement recommandables. Donc pour le bien de l'humanité et pour l'hygiène de l'esprit, il faudrait que même tous les continents s'en débarrassent. Mais bon, évidemment, comme chacun doit pouvoir vendre du rêve à sa population, un peu comme certains vont perpétuer l'histoire du Père Noël, bien qu'il n'existe pas. Mais c'est une culture, on doit vendre du rêve aux gens, aux enfants, c'est ce qu'on raconte. Mais bon, voilà, c'est à chacun de prendre la décision sur ce qu'il veut faire de sa vie et de sa population et de sa famille. Nous disions donc, pour ce qui concerne les pays du Sud, il faudrait une projection qui n'est pas celle de Mercator, mais ma proposition est une projection de Harkouf, la projection de Harkouf, car Harkouf est ce grand explorateur africain, kémite, ancien égyptien, qui a vécu sous le temps du pharaon Pépi II, le fameux Pépi II, qui a au fait régné juste avant que l'Égypte ne puisse s'écrouler. À son début, l'Égypte était prospère parce qu'il a pris le pouvoir relativement tôt. Il était très jeune, il était encore enfant lorsqu'il a pris le pouvoir. Et son problème, c'est qu'en fait, il est resté au pouvoir pendant trop longtemps, car il a vécu jusqu'à un âge très avancé. Il a commencé à régner alors qu'il était enfant. Il a perdu la réalité du pouvoir, malheureusement. Mais à ses débuts, l'Égypte était encore assez forte. Et Harkouf, qui était ce diplomate, cet aventurier, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire à la recherche d'aventure, un homme extrêmement intelligent, passionné, curieux de tout, un savant, un homme très intelligent, un diplomate qui au fait non simplement était comment dire un fonctionnaire de l'État, mais aussi un diplomate, comme nous l'avons dit, un politicien et un explorateur, un chercheur qui voyageait jusqu'au fin fond des frontières égyptiennes pour rencontrer d'autres peuples comme ceux du pays de Yam. Et il est resté pendant très longtemps comme l'un vraiment des symboles de l'exploration égyptienne, et qui a maintenu la diplomatie avec d'autres pays de l'intérieur. Il était fier de dire que je suis allé très loin dans les zones africaines, jusqu'à la frontière, au-delà des frontières connues. Il était fier de ça, car dans son tombeau, il y a sa biographie qui est brillamment relatée. Donc voilà un personnage africain que l'on peut utiliser, qui est le symbole de voyage, qui est le symbole d'aventure, qui est le symbole de carte, qui est le symbole d'exploration. Ce nom peut être utilisé pour un projet scientifique, un projet géographique, un projet géostratégique, pour dire voilà, nous avons les cartes d'Harkouf, c'est-à-dire les cartes qui réellement représentent l'Afrique comme elle est, c'est-à-dire du nord au sud. Donc le nord est au sud, le sud est au nord. C'est important de manière psychologique, c'est important de manière stratégique et même aussi civilisationnelle. Évidemment, Harkouf, c'est le nom que l'égyptologie lui donne. Nous devons trouver comment se prononce dans les langues africaines et donner ce nom-là. Parce que quand on dit Harkouf, ça va encore entraîner des confusions avec d'autres qui vont dire « Ah non, nous sommes les vrais Égyptiens et consorts. » Et voilà, il faut trouver le vrai nom Parce qu'en Afrique, on ne sait pas qui s'appelle Harkouf comme ça. Parce que les vrais noms des Égyptiens, des anciens, on les retrouve jusqu'à présent même en Égypte ancienne. Par exemple, nous l'avons dit une fois, ou du moins, d'après les communications de Dibomarim Bok, par exemple, on sait que Ramsès, il n'y a personne qui s'appelle Ramsès en Afrique. Hein? C'est plutôt... c'est plutôt Massiré ou Massira. Et vous savez qu'au Botswana, par exemple, on a... l'ancien président du Botswana s'appelait Massiré. Hein? Et Ré, vous savez que Ré, Ra, c'est la même chose, Ra, le soleil. Donc, nous devons trouver un nom. Le nom, vraiment, ce que le nom de Harkouf est réellement prononcé dans les langues africaines. Et le projet que nous aurons de changer les cartes, nous appellerons carte Harkouf ou carte avec le nom de cet explorateur-là, noir africain, qui a fait ce lien-là. Qui a exploré notamment le pays de leurs ancêtres, car ils reconnaissaient qu'ils allaient au pays de leurs ancêtres lorsqu'ils allaient au pays de Yam et au pays au fin fond de l'Afrique. Donc ça c'est dit. Ça c'est donc le monde sous Pépi II. Pépi II, nous le rappelons, il est intéressant à étudier pour nous, car il nous rappelle, nous l'avons dit, ces chefs d'État africains qui ont régné pendant trop longtemps et qui ont perdu le contact avec la réalité, qui n'ont pas préparé de descendance en termes d'idéologie, c'est-à-dire n'ont pas simplement préparé leurs fils. Bon, encore en ancienne Égypte, on pouvait comprendre, il y avait un système aussi royal qui était en place. Malheureusement, nos présidents, eux, veulent faire aussi la même chose en préparant des fils qui n'ont pas toujours aussi l'étoffe de véritables chefs de l'État et de garants de la nation. Pépi fait cette erreur avant nos dirigeants actuels où il ne sait gérer le pouvoir, il ne sait préparer la succession et son royaume va s'effondrer, va s'effriter et l'esprit tribal va naître. Alors que le génie de la Semata, oui, était justement de rassembler ces différentes tribus et d'en faire, de créer l'identité nationale. Mais malheureusement, sous Pépi, ces choses vont s'effondrer. Vous savez, comme on dit le vieux dicton, chacun pour soi, Dieu pour tous. Lorsque la crise arrive, par exemple, vous voyez en Europe maintenant, il y a la crise, l'Europe qui était dite solidaire, la fameuse solidarité européenne, eh bien, elle s'est effritée parce que nous avons vu certains pays voler ou piquer des masques à d'autres dans les médias. C'était complètement ridicule. Et on comprend que c'est un instinct humain de survie. Lorsque sa vie est menacée, on a tendance à compter sur soi au lieu de se serrer les coudes. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Égypte, en période de crise, en ce temps-là de crise économique, de crise écologique, de famine. Eh bien, l'esprit d'union, la Semata, oui, s'est effrité et le tribalisme a pris le dessus. Et l'Égypte a commencé à se diviser. Plus tard, donc, les conséquences en seront désastreuses, car sous Intef III, l'Égypte est séparée, comme nous l'avons dit, Intef III au sud, Kéti III au nord, d'où nous avions divergé à côté avec le sujet sur les différentes cartes. Donc ça, c'était pour mettre fait les choses dans leur contexte. Voilà donc l'Égypte que nous avons en vers 2000, avant Jésus-Christ, donc vers 2100, vers 2200 comme ça, ils ont 2100, nous avons cette configuration de l'Égypte. Bon, 2100 c'est peut-être trop dire, disons, on va aller vers les 2000, je sais pas moi, 50, 30 comme ça, ou 40, donc on est dans cette fourchette-là. Donc, c'était cette configuration que nous avons de l'Égypte ancienne. Intef III donc est en guerre contre Kéti III. Mais les trois sont en train de former leurs enfants, espérant qu'ils vont leur succéder un jour et vont pouvoir garder une Égypte forte, peut-être séparée, mais du moins forte. Kéti III n'est pas forcément l'ennemi que l'on pense être. Il a un grand respect pour l'Égypte, il a un grand respect pour le Sud et enseigne son fils qui s'appelle Mérikaré dans toute la sagesse des Égyptiens, à tel point qu'on a retrouvé un papyrus qu'on appelle les enseignements de Mérikaré, c'est-à-dire c'est le pharaon Kéti III qui a écrit des maximes et des préceptes pour son fils. Et voilà pourquoi on appelle ça les enseignements de Mérikaré. Et c'est une tradition qu'il y a souvent en Égypte avec aussi le pharaon Aktoès II, si je ne me trompe, où des pharaons vont mettre des maximes, des conseils, des stratégies de guerre économique, politique, diplomatique, de savoir-vivre, au fait, qu'ils vont transférer ou transmettre à leurs enfants. Ça, c'est très commun dans l'histoire égyptienne. Du moins, celui de Mérikaré et de Aktoès, on a donc cet exemple-là, où des rois comme Khéti III ou Aktoès II ont écrit des textes pour leurs enfants afin qu'ils soient prêts à gérer. Et c'est exactement un peu ce qu'on voit maintenant avec les livres, par exemple, de développement personnel, où il y a des leaders qui écrivent leur biographie ou qui compilent différentes sagesses ou expériences ou anecdotes de leurs capitaines d'industrie, politiciens les plus sages, les plus avérés, les diplomates, qu'ils combinent dans un recueil pour, au fait, transmettre à la génération future que voilà ce que les gens les plus vertueux ont accompli. Comment vous aussi, vous pouvez acquérir ces faits-là, ces qualités-là. Ce n'est pas nouveau, ça existait déjà depuis l'Égypte ancienne, où les rois mettaient par écrit les règles de sagesse qui permettaient à leur descendance de pouvoir gérer avec intelligence. Donc ça n'a pas commencé avec Salomon et les proverbes, et on sait que ces proverbes-là viennent du reste de l'Afrique. Nous en avons déjà parlé largement ici, et nous en reparlerons encore beaucoup plus profondément plus tard. Et ça n'a pas commencé maintenant avec les différents livres de self-help que l'on voit, mais c'est réellement en Afrique, en Égypte, où on a vu cette littérature émerger, où les proverbes, où les maximes, où les conseils, où les stratégies passent d'un père à un fils, d'un parent à un enfant, afin de pouvoir assurer l'avenir. Donc il faut oublier un peu cette fameuse culture, il n'y a pas d'écriture en Afrique, il n'y a pas de culture de transmission. Non, ça existait. Et ça va encore exister, simplement qu'il faut reconnecter les Kémites, les Africains, avec leur histoire. Donc, dans ce contexte de guerre, nous avons donc, nous le répétons encore, remettons les pions sur l'échiquier. Nous avons donc au nord Khéti III et son fils Mérikaré, qui l'élève au nord. Et au sud, nous avons Intef III et son fils qui l'élève Mentotep III. Deux. Mais un peu plus loin, dans un homme, vit un chef de guerre. Il s'appelle Anktifi. Et son tombeau a été retrouvé. Un homme très arrogant, très intelligent, stratège, impitoyable. Il ne recule devant rien. Un bad guy, pour la plupart des gens qui verraient les choses comme ça. Eh bien, il est là, profitant aussi du désordre qui se passe en Égypte, pour aussi mettre sous son joug certains autres nomes et contrôler la région. Quand je dis joug, je ne veux pas dire d'esclavage, non. Mais simplement que dans les écrits d'Anktifi, que l'on a retrouvé dans son tombeau, il se vante qu'il est celui qui a qui a assuré la sécurité alimentaire à beaucoup d'Égyptiens qui étaient dans la famine, qui étaient complètement perdus. Il affirme avec force qu'il a maintenu son leadership alors que les autres étaient complètement perdus. Donc c'est dans ce contexte-là que l'Égypte ancienne va devoir affronter son destin. Khéti III donc élève son fils dans le respect du Sud, nous l'avons dit, bien qu'étant en guerre avec le Sud. Mais dans ses maximes, il précise, il dit bien d'avoir en respect le Sud, de ne pas se précipiter à être en guerre avec eux, malgré les différentes incompréhensions qu'il y avait entre les deux territoires. Il y a donc entre Khéti III et Intef III des moments de trêve. Mais Mérikaré, lui, ne comprend pas. Le petit garçon, fils de Khéti, habitant de la basse Égypte au nord, lui ne comprend pas. Et lui, au contraire, semble grandir avec une colère envers ceux du sud. Il ne les considère pas comme des frères, ils sont séparés, ce sont les autres. Bien que son père semble lui inculquer les valeurs peut-être de la Sematawi, peut-être des Shemsuhor, de ceux qui venaient du sud et qui ont conquis. Mais Mérikaré peut-être ne veut-il rien entendre. Malgré la sagesse que son père essaie d'injecter sur lui, Cet enfant a un côté probablement sombre que son père, malheureusement, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à extirper. De l'autre côté, Mentuhotep, lui, enfant, ne rêve que d'une chose, accomplir ce que Narmer avait fait 1000 ans auparavant. La suite au prochain numéro.